Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وذق الله العلي.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement, une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le dimanche 10 mai 1401 du calendrier iranien, 2 octobre 2022. Aujourd'hui, nous vous présentons notre bulletin d'information, ensuite notre commentaire politique. Les États-Unis poursuivent la sédition satanique pour créer des divisions en Iran, a déclaré le secrétaire général du Hezbollah libanais. La vengeance du sang des martyrs du Vendredi Noir à Zahedan est à l'ordre du jour, a annoncé le corps des gardiens de la révolution islamique. Manifestation en Afghanistan des femmes Hazara pour condamner les attaques terroristes contre la communauté chiite. Et au Brésil, les électeurs aux urnes ce dimanche, duel annoncé entre Lula et Bolsonaro. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique a eu ce dimanche des mots durs contre les parties étrangères qui complotent contre l'Iran, tout en abordant les causes profondes des troubles récents en Iran lors d'un discours. Le général de division Hossein Salami a déclaré que les États-Unis étaient devenus faibles et impuissants, et c'est pourquoi les ennemis ont lancé une campagne politique et médiatique pour compenser le vide. Selon le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, soucieux de leurs intérêts néfastes, les ennemis malveillants ne peuvent jamais tolérer l'existence d'un pays puissant, influent et souverain, gouverné par un système islamique. Qualifiant de déconcerté des réalités l'ennemi, le général Salami a cependant noté que les Iraniens savent comment vaincre leurs ennemis. Il a juré de se venger des actions hostiles de malveillants, qu'il s'agisse d'abattre un drone ou d'attaquer un poste de police. En Afghanistan, des femmes Hazara et des militantes des droits civiques se rassemblent dans la capitale, Kaboul, pour condamner les récentes attaques terroristes contre la communauté chiite Hazara. Les manifestants scandant « Arrêtez le génocide Hazara » et « Nous voulons la justice » marchaient dans les rues. Le rassemblement a eu lieu un jour après qu'un attentat suicide ait visé un centre éducatif dans une zone principalement peuplée par la communauté Hazara dans l'ouest de Kaboul. Selon la mission de l'Organisation des Nations Unies en Afghanistan, l'explosion a fait près de 35 morts et de nombreux blessés. bon nombre de personnes tuées étaient des adolescentes qui suivaient des cours supplémentaires pour se préparer aux examens d'entrée à l'université. Le ministère afghan de l'Intérieur a condamné l'attaque en disant que ceux qui ciblent des civils prouvent leur cruauté inhumaine et leur manque de normes morales. La République islamique d'Iran a également condamné par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères l'attaque, a exprimé ses condoléances aux familles endeuillées. Les sondages s'ouvrent au Brésil. Les électeurs votant lors de l'une des élections présidentielles les plus controversées du pays depuis des décennies. Le vote oppose le conservateur Bolsonaro à l'ancien président de gauche Lula da Silva. L'ancien président de gauche Lula da Silva et le sortant d'extrême droite Bolsonaro sont les deux grands favoris de la présidentielle qui se tient ce dimanche 2 octobre. Les sondages d'opinion montrent que Lula a une avance de 10 à 15%. Bolsonaro, cependant, revendique une fraude électorale depuis même avant le début du vote. Il a menacé de ne pas accepter les résultats en cas de défaite. Cela a fait craindre des violences post-électorales si Lula ne remporte pas une victoire nette et que le vote passe à un second tour. Parallèlement aux élections présidentielles, les Brésiliens voteront également pour élire les membres du Congrès. Les conservateurs de Bolsonaro sont susceptibles de gagner la Chambre basse. Et enfin, les gens se rassemblent dans toutes les grandes villes du Royaume-Uni pour protester contre la hausse du coût de la vie. Dans la capitale, Londres, des centaines de personnes se sont rassemblées samedi pour protester contre la hausse des prix qui pèse lourdement sur le pouvoir d'achat. Les gens se rassemblent dans certains nombres d'endroits pour appeler à l'action. Des représentants du Parti travailliste, d'opposition et des syndicalistes prononcent des discours, manière de fustiger la situation et l'action du gouvernement. Les gens ont appelé des célébrités à se joindre à eux. Ils exigent des salaires plus élevés pour les travailleurs et des impôts pour des riches. Le coût de la vie augmente au Royaume-Uni depuis le début de 2021 et a atteint près de 10% en août 2022, du jamais vu depuis 30 ans. La crise a affecté l'accès sûr et facile à des biens et aux services pour les ménages. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. Le secrétaire général du Hezbollah libanais a dénoncé les États-Unis pour leur position et leur ingérence à la suite de la mort d'une jeune iranienne, affirmant que Washington poursuivait des complots séditieux afin de semer des graines de la discorde et de créer des divisions dans la République islamique d'Iran. Seyed Hassan Nasrallah a fait ses remarques dans un discours télévisé diffusé en direct depuis Beyrouth, la capitale libanaise, samedi soir, alors qu'il s'adressait aux participants à une cérémonie en commémoration du dignitaire religieux chiite Sayyid Mohammad Ali Al-Amin, décédé en juillet. Les protestations contre la mort de Mahsa Amini, une Iranienne de 22 ans, qui s'est évanouie dans un poste de police la semaine dernière, a ensuite été déclarée morte dans un hôpital, ont d'abord éclaté dans sa province natale du Kurdistan, puis se sont propagées à d'autres parties du pays, dont Téhéran. Ailleurs, dans ses remarques, le chef du Hezbollah a noté que les sanctions cruelles des États-Unis contre les Iraniens visaient à dresser le peuple contre le gouvernement iranien, soulignant que l'Iran est maintenant plus fort que jamais. Les administrations américaines ont établi des armées de trolls sur les plateformes de médias sociaux pour saper l'Iran, mais en vain. Ils ne peuvent rien faire pour nuire à la République islamique d'Iran, car la nation est prête à faire des sacrifices, a déclaré le chef du Hezbollah libanais. Il a souligné que des millions d'Iraniens sont descendus dans les rues à travers le pays la semaine dernière pour condamner la profanation des lieux sacrés islamiques et des actes de vandalisme commis par des émeutiers. L'Iran n'a aucune intention coloniale dans la région du Moyen-Orient. La République islamique d'Iran ne peut pas être vaincue et maintenant une inimitié amère à son égard entraînera d'énormes pertes pour l'ensemble du monde musulman, a déclaré Seyyed Hassan Nasrallah. Il a également critiqué certains groupes irakiens pour avoir oublié les sacrifices énormes et héroïques consentis par le regretté commandant antiterroriste iranien, le général Qassem Soleimani, pour défendre la nation arabe contre le groupe takfiriste Daesh. Nasrallah a ajouté que l'axe de la résistance a réalisé des réalisations tangibles, soulignant que les Palestiniens n'ont d'autre choix que la résistance contre le régime d'occupation israélien. Il a déclaré que les Palestiniens avaient perdu tout espoir dans toute négociation pour réaliser leurs droits. C'est pourquoi la résistance est en hausse en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza assiégée, a souligné le chef du Hezbollah. Seyyed Hassan Nasrallah a également évoqué la proposition écrite des États-Unis au président libanais Michel Aoun de résoudre potentiellement un différend frontalier maritime entre Israël et le Liban, affirmant que les pourparlers indirects sur la frontière maritime ont atteint à une étape décisive à la lumière de l'initiative du médiateur américain. Le Hezbollah soutient le gouvernement libanais concernant les pourparlers avec le médiateur américain. La victoire maritime est le fruit de la solidarité nationale et aidera le Liban à surmonter sa crise financière, a-t-il déclaré. Ailleurs, dans ses remarques, le leader du Hezbollah libanais a souligné l'échec du Parlement libanais à élire un nouveau chef d'État pour remplacer le président sortant Michel Aoun lorsque son mandat se terminera le 31 octobre. Le premier tour de scrutin a révélé qu'aucun parti politique ne détient la majorité. Les législateurs ne doivent jamais élire un président qui envisage de défier le front de la résistance, a déclaré Seyyed Hassan Nasrallah. Le secrétaire général du Hezbollah a également appelé un consensus entre les fractions politiques libanaises pour former bientôt le nouveau gouvernement.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition de débat. En effet, dès qu'un pays, surtout un pays africain, annonce ne plus vouloir marcher sur les diktats occidentaux et de l'ex-US OTAN, ce sont les sanctions de part et d'autre, des sanctions multilatérales, surtout des sanctions économiques, qui tombent sur le pays. L'un des premiers pays à avoir subi les sanctions de la CEDEAO a été le Mali. La junte malienne, le gouvernement malien qui a expulsé la France de son territoire, qui a fermé son ciel au vol français et qui a annoncé que la souveraineté était sa priorité. Ensuite, c'était le rôle de la Guinée dans cette lutte anti-terrorisme et surtout anti-Occident et anti-coloniale. Désormais, c'est la Guinée qui se trouve le cible des sanctions de la CEDEAO. Dans cette édition de débat, nous allons évoquer ce sujet avec nos invités. Mais avant de vous les présenter, je vous invite à regarder un reportage à ce sujet. On revient tout de suite après.
Le Mali, indiqué se dissocier des sanctions infligées aux voisins guinéens, également gouverné par des militaires, par la communauté des États ouest-africains, CEDEAO. Le Mali et la Guinée, membres de la CEDEAO, sont suspendus de ses organes de décision pour sanctionner la prise au pouvoir par des militaires et leur maintien prolongé à la tête de ces pays. Les militaires ont renversé les régimes civils en août 2020 au Mali et en septembre 2021 en Guinée. Outre la suspension des organes de décision déjà en vigueur, un sommet de la CEDEAO, sans participation guinéenne ni malienne, a décidé le 22 septembre de suspendre toute assistance et transaction financière des institutions financières de l'organisation avec la Guinée. Un certain nombre de personnalités sont par ailleurs frappées de sanctions individuelles. Le gouvernement malien se dit outré par ces mesures contre la Guinée dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux depuis mercredi soir. Exprimant une solidarité indéfectible avec les Guinéens, le gouvernement malien décide de se désolidariser de toutes les sanctions illégales, inhumaines et illégitimes prises à l'encontre de la République sœur de Guinée et ne leur réservera aucune suite. Il adoptera, si nécessaire, des mesures pour aider la Guinée et contrecarrer les effets des sanctions. La publication de ce communiqué précède de près la visite prévue jeudi au Mali de trois chefs d'État ouest-africains dépêchés par la CEDEAO pour tenter de dénouer une crise diplomatique avec un autre voisin, la Côte d'Ivoire. Le Mali a lui-même été soumis de janvier à juillet, de la part de la CEDEAO, à un sévère embargo commercial et financier, punissant le projet des militaires de rester au pouvoir jusqu'à 5 années supplémentaires. La junte dirigée par le colonel Assimi Goïta s'est depuis engagée sous la pression à organiser des élections en février 2024 et la CEDEAO a levé l'embargo. Mais des sanctions individuelles restent en vigueur contre les membres de la junte malienne. La Guinée a été l'une des rares à se solidariser avec le Mali face aux sanctions de janvier et a maintenu ses frontières ouvertes. Le colonel Mamadi Doumbouya a été reçu avec tous les honneurs par son homologue malien le 22 septembre, jour où se tenait le sommet de la CEDEAO.
En effet, le Mali et la Guinée sont plus proches que jamais. Une coalition interafricaine qui aurait pour but de lutter contre le terrorisme, mais surtout contre la néocolonisation menée par l'ex-US OTAN en Afrique. Alors à ce sujet, je m'adresse à vous Luc Michel, géopoliticien qui est avec nous depuis Bruxelles. Vous qui êtes un très bon connaisseur de l'Afrique, l'un des meilleurs experts dans ce domaine, Monsieur Michel. Dans un premier temps, comment interprétez-vous ces sanctions de la CEDEAO contre la Guinée, ces sanctions qui ne sont pas inédites puisqu'on avait l'expérience avec le Mali?
Oui, bonjour à vous, bonjour à mon collègue. Il faut comprendre quelque chose, c'est que depuis que les Russes sont arrivés en Afrique, ils ont apporté de l'oxygène géopolitique aux chefs d'État africains. Ceux-ci ne sont plus obligés de suivre aveuglément les Occidentaux. Ils ont l'occasion de choix. Ça a été le cas au Mali, qui a choisi le Mali. Mais dans le cas de Conakry, c'est un retour géopolitique qu'on a assisté, puisque au départ, c'était un proxy mental qui est fait avec l'aide de l'ambassade des États-Unis. Mais petit à petit, le lieutenant-colonel Dombouya s'est révélé un patriote. Il s'est lié avec les colonels de Bamako et il a refusé les diktats français et américains. Il est donc considéré comme un ennemi par la CEDEAO. Dans ce rapport de force, la CEDEAO est entièrement entre les mains des États-Unis, de la France et de l'OTAN. Il est dirigé par un espèce de syndicat des chefs d'État pro-africains, pro-occidentaux. Il y a tout d'abord le président du Ghana qui est lié par un accord de partenariat stratégique avec les États-Unis. Il est seul dans ce cas-là et dont l'armée est liée à un accord de partenariat avec la Bundeswehr. C'est le Ghana qui sert de porte d'entrée aux Allemands depuis 2013 en Afrique. La Côte d'Ivoire et le roi du Maroc sont des chefs d'État pro-français qui soutiennent la politique de Paris. Et enfin, Mohamed Bazoum, lui, est un chef d'État pro-américain et pro-français qui a fait de son pays le cœur de la guerre américaine du Sahel. Il y a des bases américaines, espagnoles et allemandes au Sahel, en plus des Français. Donc, maintenant qu'il n'y a plus directement des sanctions contre le Mali, on tente des sanctions contre la Guinée-Conakry, en sachant que celle-ci touche directement les colonels au pouvoir à Conakry. En effet, contrairement aux colonels de Bamako, qui n'avaient pas de lien en France, le lieutenant-colonel Dombouya est un ancien officier français. Il a deux épouses, il est marié à une Française et à une Allemande, et il a donc de la famille, des biens et des comptes bancaires en France et en Allemagne. Il va donc subir directement et personnellement les conséquences des sanctions, en plus des frappes contre l'économie de Conakry. C'est donc évidemment un bras de fer qui est engagé avec la CEDEAO.
Merci pour vos explications. Reste en ligne. Je m'adresse désormais à notre deuxième invité, Philippe Hugon, analyste politique, qui est avec nous depuis la France. Monsieur Hugon, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous, Monsieur Hugon, comment interprétez-vous ces tendances anticolonialistes, ces tendances souverainistes et cette coalition interafricaine qui a pris ses débuts au Mali, qui s'étend désormais dans plusieurs pays, dont la Guinée, et cette tendance des pays africains de se détacher, en fait, de l'axe colonial?
Oui, alors je pense que... Bonjour à tous, d'abord, et bonjour à votre invité. Alors, voilà, moi, je pense que depuis très longtemps maintenant, la France a une présence en Afrique, et bien sûr, pas seulement en Afrique, mais ça a été le cas en Indochine, notamment. Et bien sûr qu'il y a des conséquences immédiates, mais c'est important de parler également du passé, puisqu'en fait, je pense que aujourd'hui, nous payons notre politique colonialiste qu'on a menée pendant des dizaines d'années, et je vous dis bien, c'est pas seulement en Afrique, mais c'est également en Indochine, c'est de partout où les puissances occidentales sont allées et ont imposé leur dictat, que ce soit social, économique, financier. Donc aujourd'hui, on paye cette politique. Et il faut bien savoir que les pays africains, notamment, sont des pays qui se développent beaucoup aujourd'hui. Et on a quand même des gens en Afrique qui sont extrêmement performants, puisqu'ils ont fait des grandes écoles, qu'ils ont appris, et qu'aujourd'hui, ils ne sont plus du tout prêts à accepter les dictats du monde occidental. Donc, quelque part, moi, je trouve que c'est une très bonne chose pour ces pays. Et l'erreur qu'on a faite, c'est de ne pas les avoir laissés évoluer un petit peu à leur vitesse, en les conseillant d'une certaine façon, et ne pas leur imposer ce que l'on a fait. Vous savez, en France, on a organisé des attentats contre les dirigeants africains. On en a éliminé physiquement un certain nombre. Donc il fallait bien penser que tôt ou tard, ceci allait nous retomber dessus. Eh bien, je pense que c'est la suite logique de notre politique menée depuis des dizaines d'années en Afrique et qui amène à cette situation. Alors, bien sûr, Il est clair qu'aujourd'hui, un certain nombre de ces pays ne veulent se passer de ces opinions européennes et ne sont plus prêts à accepter les dictats occidentaux, hein, financiers notamment. Et bien sûr, ce qui pose le problème, c'est surtout la répression menée par le monde occidental sur un plan financier envers ces pays d'Afrique à qui on freine le développement parce que ces pays, justement, prennent une certaine indépendance financière et politique. Et nous ne sommes pas prêts à l'accepter aujourd'hui.
Merci pour vos explications, monsieur. On reste en ligne, s'il vous plaît. Alors, monsieur Michel, le Mali s'est dissocié des sanctions de la CEDEAO contre la Guinée. On se rappelle que quand il y avait les sanctions contre le Mali, la Guinée avait fait la même chose, avait fait parvenir du pétrole vers le Mali durant les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Et comment pourrait-on interpréter cette alliance, cette coalition interafricaine qui se crée, surtout dans ces temps de pression et de sanctions de part et d'autre occidentales, téléguidées par les Occidentaux?
Sanctions étaient par la droite et on assiste à ce qui s'est passé en Ukraine contre la Russie. C'est-à-dire qu'on pénalisait les économies des pays voisins, que ce soit la Guinée qu'on a créée, le Togo, mais également la Côte d'Ivoire. C'est contre cela que certains chefs d'État, en particulier la Guinée qu'on a créée au Togo, se sont détournés. Il y a d'autres chefs d'État qui ont adopté dans cette position des positions anti-occidentales. Le Gabon, par exemple, qui hier a refusé au Conseil de sécurité de voter les nouvelles sanctions contre la Russie. Il y a le Togo qui était le meilleur allié du Mali. Et il y a une relation d'amitié qui s'est déclarée entre le colonel Goïta et le lieutenant-colonel Dombouya. Celui-ci était encore en visite d'amitié d'État il y a quelques jours en Guinée-Conakry. Cette amitié est particulièrement spectaculaire. Ces gens ne sont pas encore des chefs d'État panafricanistes. Ce sont des chefs d'État, comme vous l'avez bien dit, souverainistes, qui veulent une politique indépendante pour leur pays. Ce que la France paye, ce n'est pas tellement les décennies de colonialisme. C'est le vol des indépendances africaines par De Gaulle et Foccart à partir de 1960, ce qu'on a appelé la France-Afrique, et qui a été maintenu jusqu'à Emmanuel Macron. Une biographie sortie de la France-Afrique au mois d'octobre de l'année passée. Elle avait un titre significatif. Elle s'intitule « L'Empire qui ne voulait pas mourir ». Aujourd'hui, nous assistons à l'agonie de l'Empire, justement parce qu'aujourd'hui, les chefs africains ont de l'oxygène géopolitique avec la Chine, la Russie et avec l'Iran. Particulièrement un chef d'État comme Macky Sall au Sénégal est étroitement allié à l'Iran et au Venezuela dans un corridor anti-sanctions Téhéran, Caracas, Dakar et dans ce qu'on appelle l'OPEP du gaz autour de la Russie et de la Guinée équatoriale. La France se croit toujours dans l'ancien cycle géopolitique comme les Américains. Ils se comportent encore comme au début des printemps arabes et africains. Et depuis 2015-2016, nous sommes entrés dans une nouvelle période.
Merci pour vos explications. Restez en ligne. Alors, monsieur Hugon, vous avez évoqué toutes ces années de colonisation de la France, surtout sur les pays africains. À votre avis, est-ce que toutes ces années de colonisation, de pression, de pillage de ressources naturelles ont payé pour la France? Est-ce que la France a enfin, en fait, réussi à soumettre les pays africains à ces dictats?
Alors, il est sûr que la France est arrivée à soumettre un certain nombre de pays africains. D'abord, on a beaucoup utilisé les pressions économiques, mais on a également utilisé les pressions financières. On a acheté des dirigeants africains qui se sont laissés corrompre. Mais moi, ce que je trouve très grave, et malheureusement, on en parle très peu souvent dans les médias, c'est le nombre de victimes, le nombre de gens qui sont morts pour de mauvaises raisons. Et c'est ça que je trouve également très perturbant aujourd'hui, c'est ce qui se passe en Ukraine. On parle beaucoup de Poutine et l'Ukraine, mais je trouve que l'on parle pas beaucoup de tous ces pauvres gens qui se font tuer chaque jour pour de mauvaises raisons. Alors, peu importe les raisons politiques, économiques, financières, c'est le bilan humain qui est absolument catastrophique. Et ça, quel que soit d'ailleurs le côté où l'on se place, hein, c'est aussi bien valable que du côté ukrainien que du côté russe. Maintenant, moi, ce qui me gêne le plus, ce qui m'embête le plus dans tout ça, c'est quelles vont être les conséquences pour cette politique économique, sociale, financière, pour l'Ukraine et également pour la Russie, car il faut savoir quand même que la Russie a un certain nombre de fragilités financières, puisqu'ils subissent également de fortes pressions de la part de l'ONU et du monde occidental. Hein. Ils ont quand même de très grosses sanctions sur le dos. Comment tout ceci va se finir? Il faut bien savoir que quand on va acculer un certain nombre de dirigeants ou un certain nombre de pays, on sait malheureusement que tout ceci se termine dans une violence absolument redoutable.
Mmh. Justement, alors, Monsieur Hugon, je m'adresse toujours à vous. Tous ces crimes de guerre, toutes ces victimes, que ce soit de la partie africaine et même de la partie occidentale française, ces soldats, est-ce que la France ne serait pas, traînée à la justice internationale un jour pour ces crimes?
Eh bien, elle devrait être traînée. Vous savez, quel que soit le président, ça va de De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, enfin tous les présidents qui se sont succédés ont beaucoup pratiqué la politique de l'ingérence, que ce soit d'ailleurs en Afrique ou en Indochine. Hein. Eh bien, moi, je constate une chose, c'est que ces dirigeants aujourd'hui sont décédés et ils n'ont jamais été condamnés. Il serait bon aujourd'hui, pour l'avenir du monde, que l'on puisse condamner, comme le disait Luc Michel quand il a parlé notamment de la Françafrique, eh bien que l'on condamne ces gens-là. Le problème, c'est qu'il y a des sommes en jeu et des intérêts économiques qui sont tels. Aujourd'hui, on utilise beaucoup, beaucoup la corruption et malheureusement, on s'aperçoit que ceci marche très bien d'ailleurs, puisqu'on oublie sur un plan historique un grand nombre d'événements qui se sont passés et c'est une fois de plus la corruption qui l'emporte. Et c'est vraiment dommage. Il faut espérer que dans les années qui viennent, il y ait quand même un sursaut de moralité dans la partie historique de ce qui se passe en Afrique, notamment, pour que l'on puisse remettre les choses à leur juste place et qu'on puisse condamner, même à titre posthume, des gens qui ont été à la tête d'un pays et qui ont pratiqué des injustices terribles envers l'Afrique, notamment, et qu'on puisse condamner à titre posthume tous ces gens-là et qu'on puisse reconnaître la réalité des choses. Il faut bien savoir que sur un plan historique, tout ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, c'est le résultat de nos politiques colonialistes que nous avons menées depuis des dizaines d'années.
Merci pour vos explications. Reste en ligne. Alors, Monsieur Michel, nous venons d'écouter les explications de Monsieur Hugon en ce qui concerne cette justice internationale. On sait bien que le Mali avait demandé il y a quelques semaines que la France soit traduite devant le Conseil, une session urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies, afin de répondre en fait à leurs crimes de guerre, à leur collaboration avec les terroristes, les renseignements qu'ils ont donnés aux terroristes. Au Mali, est-ce qu'un jour vraiment on pourrait être témoin du fait que la France et ses acolytes soient traînés par devant la justice internationale pour leurs crimes de guerre?
Moi je répondrai carrément non et il ne faut pas être naïf. Ce qu'on appelle la soi-disant justice internationale, c'est un instrument entièrement aux mains des Occidentaux. Elle est constituée du Conseil des droits de l'homme de Genève de l'ONU qui est aux mains des Américains. Et elle est constituée de la Cour pénale internationale qui est aux mains des Américains et qui est financée par George Soros. Mon regretté ami Jacques Vergès, au moment de l'affaire de la Libye en 2016, il est décédé aujourd'hui, avait tenté un recours contre Sarkozy, Obama et Cameron devant la Cour pénale internationale. Il avait été débouté et les dirigeants occidentaux avaient été amnistiés par la soi-disant CPI. Depuis, évidemment, la CPI est une machine à poursuivre les ennemis de l'Occident. La Yougoslavie, Milosevic, les dirigeants russes, Et on a uniquement, évidemment, depuis une dizaine d'années, des dirigeants africains. Il ne faut rien attendre de ce côté-là, bien entendu. Il y a un livre terrible qui s'appelle « Les tueurs de la République » qui explique comment, on parle de François Hollande jusqu'à De Gaulle, les Français ont assassiné 52 chefs d'État et premiers ministres africains, organisé des coups d'État, des sécessions et des guerres civiles. Comment ils s'en vont? Les services secrets français, le SNEC aujourd'hui, la DGSE, ou un service spécialisé dans l'assassinat des chefs d'État étrangers, qu'on appelle le service HOMO pour homicide. Le président américain, il émet des actes d'exécution extraterritoriaux, les fameux pending. Les Britanniques, eux, ont les doubles agents, double zéro, dont est le fameux personnage de film, double zéro sept. Tous ces gens sont des assassins, évidemment. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que tant de pays africains sont avec la Chine, la Russie ou l'Iran? C'est parce que justement ceux-ci apportent du respect et de la justice en Afrique. Un respect et une justice qui est jusqu'à l'heure.
Merci à vous, Monsieur Michel. Restez en ligne, Monsieur Hugon. Dans les jours, les semaines, les mois à venir, vu ce qui se passe en Afrique, surtout au Sahel, mais aussi dans la côte en Guinée, à quoi devrait-on s'attendre en ce qui concerne les relations, si on pourrait dire, mais surtout les tensions entre le Mali, la Guinée, la CEDEAO et surtout la partie occidentale?
Oui, alors c'est vrai qu'on va assister certainement à de très fortes tensions. Maintenant, je pense qu'il est très difficile de savoir comment les choses vont pouvoir se passer aujourd'hui. Il y a quand même une incertitude. Néanmoins, je pense que le monde occidental ne lâchera pas ces pays parce qu'il y a des intérêts économiques qui sont énormes et que les pays occidentaux ont besoin de ces ressources et sont prêts à, comme le disait Luc Michel d'ailleurs, avec tous ces assassinats d'hommes politiques africains. Et on s'aperçoit que finalement les choses changeront, moi je le pense sincèrement, mais ça va demander encore quelques dizaines d'années avant que les choses puissent évoluer du bon côté.
Merci à vous et le dernier mot est à vous, Monsieur Michel, on vous écoute.
Il faut savoir qu'actuellement, non pas les Français mais les Américains sont le danger en Afrique. Ils ont depuis le printemps arabe en 2000 et le printemps africain en 2014, un projet de recolonisation de l'Afrique. Ils sont aujourd'hui dans une opération de contre-offensive. Les forces spéciales occidentales et africaines sont en train de se déployer dans une zone qui va du Maroc à la mer Rouge et ils sont en train de discuter au Sénat américain une loi spéciale après l'avoir adopté une majorité bipartisane au Congrès. C'est une loi qui vise des sanctions économiques. Tous les États qui vont faire des affaires avec la Russie. C'est donc encore plus de misère, encore plus de choc économique pour les Africains. La bonne nouvelle, c'est que les Français sont en perte de vitesse. Après avoir été le gendarme de l'Afrique pour les Américains, ils sont aujourd'hui pris entre le marteau et l'enclume. Le marteau, ce sont les masses panafricaines qui veulent le départ des Français. L'enclume, ce sont les Américains qui veulent que les Français dégagent. Ils veulent américaniser la guerre du Sahel et relocaliser les Français au Mozambique. Il y a eu un sommet économique anglo-saxon en janvier 2019 à Londres, le sommet Grande-Bretagne-Afrique. La Grande-Bretagne du Brexit a exprimé sa volonté de remplacer la France sur tous les marchés africains. L'espoir des Africains, elle est aussi dans cette guerre civile des Occidentaux qui va affaiblir ceux-ci dangereusement, en plus de l'action des Russes et des Iraniens.
Merci beaucoup. Alors, pour cette émission, Luc Michel, géopoliticien, et Philippe Hugon, analyste politique, étaient avec nous. Merci à vous deux d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci à vous, mesdames et messieurs, à vous de nous avoir suivis pour cette édition du débat. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
Afrique économique. jeune mécanicien fabrique une voiture made in Togo. Cette voiture, qui suscite la curiosité des passants à Lomé, est tout droit sortie de l'imagination d'un jeune mécanicien togolais de 25 ans. Il a créé ce véhicule tout seul, à partir de matériaux de récupération. Oui, il y a plein de gens qui sont impressionnés. J'ai reçu plusieurs commandes que je n'ai pas encore exaucées, puisque pour le moment, j'ai des problèmes de garage. J'ai beaucoup utilisé les objets de récupération. J'ai payé quelques-uns en neuf. Donc, sur cette caisse, vous allez voir des pièces venant des bus. Il y a aussi des pièces venant des Titans, des motos, des véhicules. Donc, ça dépend. Je reçois des pièces venant de partout, explique Souro et Jarayo Malazouv. Pour financer la construction du véhicule, qui lui a pris un an, le jeune homme a dû puiser dans ses économies. Avant de devenir mécanicien, il vendait et réparait des téléphones et des ordinateurs. Je suis passionné des engins sportifs. Ce sont des modèles qui me plaisent beaucoup, mais faute de moyens, je ne peux pas me les récupérer puisque ce genre de bogey, ça coûte des fois le double du prix des véhicules même. C'est très cher, explique le jeune homme. Pour le moment, le RAV X-Raptor fonctionne à l'essence, mais il devrait passer à solaire grâce à l'installation de capteurs sur le toit. Tout ce qu'il manque au créateur de ce véhicule tout-terrain made in Togo, c'est d'obtenir des financements. La Russie envisage de porter la valeur de ses exportations agricoles vers l'Angola à 100 millions de dollars par an. En Afrique, le marché de l'agroalimentaire attire les convoitises. Du Brésil aux États-Unis, en passant par l'Union européenne et la Russie, les principaux producteurs agricoles mondiaux se bousculent pour y prendre des parts de marché. Les autorités russes comptent tirer pleinement parti des opportunités liées au marché agroalimentaire en Angola, selon les informations du ministère de l'Agriculture. Relayées par le site d'information Interpax, le pays des Tsars pourrait exporter jusqu'à 100 millions de dollars de produits agricoles vers la nation d'Afrique australe. Pour l'heure, le pays a absorbé en 2021 153 900 tonnes de denrées alimentaires en provenance de Russie pour 47 millions de dollars, ce montant est en baisse de 18% d'une année sur l'autre, et les principaux articles ont été le blé, la viande de bœuf et les produits dérivés ainsi que la viande de volaille. Il faut noter que dans cette stratégie de conquête, la Russie sera confrontée à une rude concurrence sur le marché angolais de l'alimentation dont les perspectives de croissance attirent d'autres poids lourds de l'agriculture mondiale. Parmi les rivaux sur cette destination, on peut citer notamment les États-Unis, pour qui l'Angola est déjà le second plus grand client pour les produits agricoles en Afrique australe, après l'Afrique du Sud. Les États-Unis envoient en effet chaque année pour plus de 100 millions de dollars de denrées vers le pays et représentent son premier fournisseur en viande de volaille. Pour rappel, l'Angola est l'un des principaux importateurs africains de produits alimentaires, vers des dépenses avoisinant les 2 milliards de dollars par an selon les données de Trademap. La société japonaise Daikin va construire des climatiseurs au Nigeria dans le cadre d'une nouvelle initiative. Cette société va commencer à assembler des climatiseurs au Nigeria dans le cadre de la relance de ses activités en Afrique qui avait été retardée par la pandémie de COVID-19, a déclaré jeudi un responsable régional. « Nous allons très bientôt avoir une usine au Nigeria », a déclaré à Reuters Nawal Jijawa, le responsable des opérations de Daikin en Inde et en Afrique de l'Est. Plutôt que de construire une usine, Daikin utilise de l'espace dans une installation fournie par un distributeur local dans la nation ouest-africaine, a-t-il dit. dans les pays de l'Afrique de l'Est, dont la Tanzanie et le Kenya, Daikin, vise à devenir le premier vendeur de climatiseurs, de refroidisseurs et d'autres équipements de refroidissement d'ici 2025. La société cherche à reproduire son succès en Inde, où elle a battu des entreprises comme LG Electronics de Corée du Sud, pour s'emparer de la plus grande part de marché dans le cadre d'une expansion rapide du marché stimulé par la croissance économique du pays, a déclaré M. Jawa. La capacité de production de Daikin en Inde devrait presque doubler en 2023 avec l'ouverture d'une nouvelle usine, ce qui lui permettra d'expédier en Afrique des équipements plus abordables et mieux adaptés aux conditions locales que les climatiseurs que l'entreprise japonaise fabrique ailleurs, a indiqué M. Jawa. Pour l'Afrique de l'Est, nous continuerons à fournir des produits finis fabriqués en Inde, a déclaré un porte-parole de Daikin. Malgré ses potentialités agricoles, la Gambie reste dépendante des importations des produits agroalimentaires. Pour inverser la tendance, en plus de rechercher des financements, le pays compte former une main-d'œuvre qualifiée pour développer ce secteur. Le ministre gambien de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Sciences et de la Technologie, Pierre Gomez, a annoncé un projet de création d'un centre de formation technique et professionnels spécialisés dans l'agrobusiness. Le centre sera logé à Sapou, une localité choisie pour ses atouts climatiques et géographiques. Vous avez de l'eau 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous pouvez faire de l'agriculture toute l'année. Vous n'avez pas besoin d'une saison de pluie pour faire de l'agriculture, indique le ministre. Pour lui, l'école va former aux compétences pour aider à tirer profit de cet avantage, le but principal étant de limiter les importations des produits agroalimentaires. Bien que le secteur agricole en Gambie présente des potentialités, le pays reste encore dépendant des importations de produits agricoles et agroalimentaires tels que le riz, le sucre et les huiles raffinées. Pour inverser cette tendance, pendant longtemps la stratégie a été orientée vers la recherche de financement et l'introduction de nouvelles cultures. Mais le gouvernement a réajusté sa stratégie en y impliquant la formation de la main-d'œuvre. Dans cette école, les programmes de formation donneront une plus grande place à la pratique, avec des programmes spéciaux sur l'entrepreneuriat. Nous ne pouvons pas pratiquer l'agriculture dans un bureau ou aux quatre coins de la salle de classe. Elle doit aller au-delà, mais la composante commerciale de l'agriculture doit être clairement mise en évidence, de sorte qu'une fois diplômée de cette école d'agriculture, certaines puissent rejoindre le ministère, mais la majorité d'entre eux puissent avoir leur propre entreprise, car toutes les activités seront liées à l'agriculture, explique le ministre. Au Sénégal, le riz est la principale denrée de base. Si sur la dernière décennie, l'offre locale a enregistré une forte progression, le pays reste encore dépendant de l'approvisionnement extérieur. Une situation qui l'expose aux turbulences sur le marché international. Au Sénégal, le gouvernement compte entamer des discussions avec l'Inde pour bénéficier d'une exemption dans l'accès au riz. C'est ce qu'a affirmé le président Macky Sall le lundi 26 septembre durant une rencontre avec des chefs d'entreprise. Cette démarche rapportée par Reuters intervient dans un contexte où la nation asiatique, premier exportateur mondial de la graminée, a suspendu depuis le 9 septembre dernier ses envois sur le marché international de riz, brisé 100% et imposé un droit de douane de 20% sur les ventes de divers autres types de riz. Alors que la durée de cette restriction commerciale n'a pas été précisée, le Sénégal est l'un des pays africains qui pourrait être le plus affecté dans le cas d'un statu quo. L'Inde lui a en effet fourni en 2021-2022 plus de la moitié de ses importations totales de riz, qui sont pour l'écrasante majorité sous forme de brisures. Si les contours des futures négociations entre les deux partenaires commerciaux n'ont pas été évoqués, le Sénégal pourrait mettre dans la balance son offre en acide phosphorique afin d'obtenir de la part de l'Inde des cargaisons de riz. Je veux rappeler à tout le monde que le Sénégal est un exportateur d'acide phosphorique qui permet à l'Inde de fabriquer ses engrais, indique M. Sall. Au Sénégal, la consommation de riz dépasse chaque année les 2 millions de tonnes, selon les données du département américain de l'agriculture. Pendant ce temps, la récolte tourne autour de 1,2 million de tonnes. Le pays est le troisième importateur de riz en Afrique, après le Nigeria et la Côte d'Ivoire.